Bonsoir, comment allez-vous? Savez-vous qu'on dit que dans la nuit de Noël, les animaux parlent? J'aimerais vous lire une histoire trouvée dans le roman de Nahal Tajadot, Rumi le Brûlé, édité chez Jean-Claude Lattès. Voici, nous sommes au XIIIe siècle. Un fameux marchand persan s'apprêtait à se rendre en Inde. Avant son départ, il réunit toute sa maisonnée, famille, esclaves et même les animaux domestiques. Très généreux, il leur demanda quels souvenirs de là-bas les enchanteraient. Chacun répondit selon ses désirs. Interrogé à son tour, le perroquet dit « Rends-toi dans la forêt. Quand tu rencontreras mes congénères, salue-les d'abord et demande-leur de ma part s'il est juste qu'ils vivent dans les arbres alors que moi, je suis dans une cage. Puis demande-leur une solution, une issue à mon malheur. » Une fois en Inde, lors d'une promenade en forêt, le marchand rencontra un perroquet sauvage et lui répéta la requête de son propre oiseau. Son récit à peine terminé, le volatile se mit à trembler, tomba à ses pieds, cessa de respirer et mourut sur le champ. Attristé, le commerçant regretta immensément d'avoir parlé. De retour en Perse, il distribua les cadeaux à sa maisonnée. Quand vint le tour du perroquet, il lui relata la triste mort de son congénère. Sitôt son histoire terminée, le volatile prisonnier frissonna, se refroidit, tomba dans le fond de sa cage et périt à son tour. Le négociant pleura longuement le décès de son oiseau au chant délicieux, de son compagnon, du familier de ses secrets. Puis il ouvrit la porte de la cage et en tira le cadavre. Alors, d'un coup d'aile, le pseudo-cadavre s'envola pour se percher sur le sommet d'un arbre. Ahuri ! Le marchand interrogea son oiseau, bien vivant, sur ce comportement bizarre. Et l'autre répondit « J'ai suivi simplement le conseil du sage perroquet. En simulant la mort, il m'a appris le moyen de m'évader. Le temps est enfin venu pour moi de vivre libre. » Le marchand dut se résigner à cette dépossession et souhaita bonne route à son ancien captif.
« Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 4 ans et demi. » Je voudrais bien savoir si c'est les perroquets que c'est le seul qui parle.
Toi aussi tu parles bien, Aurélien. C'est extrêmement clair comme question, Guilhem Le Saffre. Le perroquet est-il le seul oiseau qui parle?
Ben c'est une très bonne question, Aurélien, parce que le perroquet est loin d'être le seul oiseau à parler. Alors je vais te raconter une petite histoire. Un jour, je me promenais dans un village et je vois posé sur un banc un chouka. Un chouka, c'est une sorte de petit corbeau. Je m'approche de ce chouka, j'étais étonné de le voir comme ça, au milieu des maisons du village, et tout d'un coup j'entends le chouka me dire « Va-t'en ! Va-t'en ! » Et là j'ai compris qu'en réalité ce chouka, j'ai eu le fin mot de l'histoire après, ce chouka avait été apprivoisé, si vous voulez, par les gens, mais les gens en avaient eu un petit peu assez, alors à chaque fois qu'il s'approchait d'eux pour demander à manger ou pour se poser sur eux, ben les gens disaient « va-t'en, va-t'en ». Et il avait fini par répéter ce fameux « va-t'en ».
Ah c'est drôle, hein.
Alors,
un chouka.
Le chouka est un corvidé, c'est un petit corbeau, donc, et les autres membres de la famille des corvidés sont aussi capables de parler si on le leur apprend. Les corneilles, les geais par exemple, sont de très bons imitateurs.
Alors en fait, pourquoi parlent-ils? Parce que entre eux, quand ils échangent, les corvidés, ils n'échangent pas avec des paroles d'humains.
Alors ça, c'est simplement, si vous voulez, quelque chose qui vient de leur talent d'imitateur. Lorsqu'ils sont au contact d'êtres humains, ils prennent ce qu'ils entendent, si vous voulez, les sons qu'ils entendent. Mais les oiseaux imitateurs sont capables de prouesses absolument incroyables. Par exemple, le ménure, l'oiseau lyre d'Australie, est capable d'imiter une tronçonneuse. Il est capable d'imiter un réveil. Et chez nous, certains oiseaux, comme l'étourneau, sont également capables d'imiter, par exemple, des sonneries de téléphone portable.
Mais alors, ce qui est drôle dans votre chouka qui dit « va-t'en », c'est qu'il a compris que c'était un son d'humain et que vous étiez un humain. Il ne l'aurait pas fait devant un chien, par exemple, peut-être?
Oh si, je pense que c'était un réflexe conditionné, en quelque sorte.
Ça l'éclatait, quoi, de faire ça.
Voilà, exactement.
Guilhem Le Saffre est l'administrateur du Centre ornithologique d'Île-de-France. Dans les petits bateaux, ce soir, nous saurons avec Frédéric Lenoir pourquoi on a inventé les dieux et également avec Catherine Laine comment la sève de l'arbre fait pour monter puisque l'arbre n'a pas de cœur. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Jean-Rémy et je voudrais savoir pourquoi fois le laser de la télécommande ne fait pas mal, et le laser des épées laser ferait mal. Au revoir, merci.
Jean-Rémy, bravo. Cédric Rey, vous êtes maître de conférence à l'Université Claude Bernard de Lyon. Et vous avez écrit « La physique par les objets quotidiens ». La deuxième édition augmentée déjà maintenant est éditée chez Belin. Alors cette histoire de laser qui fait mal ou qui fait pas mal.
Bonsoir Jean-Rémy. Eh bien, en grand fan de la guerre des étoiles, moi-même, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de répondre à cette question. En effet, le laser de la télécommande fait pas mal, alors que les épées laser semblent faire mal. Alors, il faut bien distinguer que le laser, en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on va produire de la lumière de façon très particulière. Et ça, le physicien, en fait, il va utiliser ce terme de laser pour des émissions très très particulières. C'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. Alors que dans une télécommande, en fait, c'est pas du tout un laser, mais c'est juste une diode infrarouge. C'est-à-dire qu'on va juste émettre de la lumière infrarouge et un faisceau diffus. C'est un peu comme si on avait une ampoule à LED, sauf que là, c'est pas de la lumière visible, c'est de la lumière infrarouge. Et donc, la grosse différence, c'est le processus d'émission, d'une part, et surtout la puissance. Dans un laser, on va émettre une grosse puissance dans une surface très faible.
Mais c'est de la lumière.
C'est de la lumière. On peut avoir des lasers infrarouges, donc c'est pas un problème de longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, c'est juste, en gros, la couleur du laser. Donc, dans le visible, c'est ce qu'on appelle la couleur. Et puis, comme les ondes électromagnétiques, elles débordent, elles vont aussi vers l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Après, on parle plutôt de longueur d'onde. Et donc, on peut avoir un laser infrarouge qu'on va utiliser, par exemple, pour découper du métal. Donc, on peut vraiment faire mal avec un laser. C'est pas le problème.
Les chirurgiens utilisent quel genre de laser?
Alors, ça peut être des lasers infrarouges, par exemple, pour découper la cornée dans les opérations de l'œil. C'est des lasers infrarouges femtosecondes, c'est-à-dire des impulsions très, 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 très rapides. Hein. Femtosecondes, c'est 10-15 secondes. Donc, ça veut dire que c'est millionième de milliardième de seconde.
Ouais, c'est vraiment... C'est pas long. On va dire que c'est pas long.
C'est très, très court. Et dans une télécommande, on va avoir vraiment aucune notion de focalisation, c'est-à-dire de concentrer la lumière en un seul point, mais vraiment avoir une diode qui émet, partout de la lumière.
Heureusement, sinon une télécommande, ça serait
Exactement.
Hyper dangereux.
Ça serait super dangereux. Ouais. Et puis les épées laser, malheureusement, donc pour les fans, on ne peut pas faire d'épées laser. Pourquoi ? Parce que le laser ne peut pas s'arrêter, en fait. Sinon, il faudrait un petit miroir à l'autre bout de l'épée. Ce n'est pas tout à fait possible non plus.
On ne peut pas couper un rayon comme un ruban.
Exactement. Surtout dans les puissances qui sont mises en jeu ici, puisqu'on peut couper une porte avec, une porte en métal. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête comme ça pour faire une épée. Donc, on ne peut pas, malheureusement, faire d'épée laser.
On le voit d'ailleurs, et je ne sais pas si ce sont les mêmes, mais par exemple, les rayons de lumière qui partent de la Tour Eiffel, ils vont loin.
Ils vont très loin. Alors, c'est pas forcément des rayons laser, ça peut être des rayons laser, hein, parce que il y a en particulier des mesures qui sont faites de la pollution avec des rayons laser. C'est ce qu'on appelle le système LIDAR. En fait, la lumière va se diffuser sur la pollution. On va recueillir une partie de cette lumière, on va l'analyser, qui est rétrodiffusée, on appelle ça. Et ça permet d'analyser les couches de pollution sur Paris. J'ai un ami qui a fait justement une thèse là-dessus, sur la pollution de Paris, et il tirait au-dessus de la Tour Eiffel son laser.
Ça me fait froid dans le dos. Mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je t'aime.
Je panique. Justement, la chanson de Junior s'appelle « Panique ». Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Hé, hey, d'avoir un cœur n'est pas donné à tout le monde.
Je m'appelle Manon. Je voudrais savoir comment la tête de l'arbre circule parce qu'il n'a pas de cœur. Merci, le petit bateau.
Merci Manon, c'est bien vu, il n'y a pas de pompe effectivement. Comment ça circule? Catherine Laine, enseignante-chercheur avec des élèves pas mal plus âgés que Manon, puisque vous êtes à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et vous êtes l'auteur de ce livre édité chez Belin, Dans la peau d'une plante, où vous répondez à justement tout un tas de questions impertinentes. 70. Alors pour répondre à Manon...
Alors déjà Manon, elle me dit comment la sève de l'arbre circule. Alors je suis obligée de la corriger parce que on doit pas dire la sève mais les sèves.
Ah bon ?
Oui, parce que dans un arbre, comme dans toute plante, il y a deux sortes de sèves qui circulent.
J'aurais fait comme Manon, moi j'en
étais oui,
qu'une.
Souvent on oublie la deuxième. Alors on va juste les rappeler, ces deux types de sèves. La première, c'est ce qu'on appelle la sève brute. Et en gros, c'est de l'eau avec des minéraux dedans, de l'eau minérale si vous voulez, qui va circuler des racines jusqu'aux feuilles de l'arbre. Et cette sève-là, elle monte, elle n'a qu'un seul sens, hein, elle est ascendante. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on appelle la sève élaborée. Et comme son nom l'indique, elle est élaborée, elle est fabriquée par les feuilles lorsque les feuilles font la photosynthèse. Donc elles, quand elles font de la photosynthèse à la lumière, elles fabriquent des sucres. Et ces sucres, les feuilles vont les charger dans cette sève et cette sève sucrée va redescendre globalement des feuilles jusqu'aux racines.
Elles vont nourrir
pour nourrir l'arbre, pour remplir les fruits de sucre, pour permettre aux bourgeons de se développer, etc. Donc à ce moment-là, on peut se demander si j'ai deux sèves, est-ce qu'il y a deux cœurs? Non, il y a toujours pas de cœur, Manon a raison. Il y a quand même un système qui permet cette circulation, bien sûr, même si c'est pas un système musculaire comme le cœur. Alors, il faut donc distinguer nos deux sèves. La première, la sève brute qui monte. Comment ça monte? De manière simple, ça monte parce que les feuilles transpirent. Les feuilles d'un arbre perdent de l'eau sous forme de vapeur pendant la journée, surtout en pleine lumière, parce qu'elles ouvrent leurs orifices, qu'on appelle des stomates. Elles ouvrent ces orifices pour pouvoir puiser de l'air dans les feuilles et pouvoir faire la photosynthèse. Mais en s'ouvrant, elles perdent aussi leur eau, leur vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau qui sort crée un appel d'eau dans la feuille, si vous voulez. Et donc va faire venir d'autres molécules d'eau pour remplacer celles qui sont parties.
D'accord.
Et cette eau qui arrive et qui remplace, elle vient d'où ? Elle vient des tuyaux dans lesquels circule la sève brute. Si vous voulez, les molécules sont évaporées dans les feuilles, sont remplacées par le haut de la colonne d'eau dans les tuyaux, et ça crée une succion, on appelle ça en physique une tension, qui aspire cette colonne d'eau et qui va donc faire monter les molécules d'eau.
Comme si j'aspirais dans une paille.
Exactement, c'est exactement l'image, c'est comme si on aspire dans une paille. Et ça monte aussi parce que l'eau, c'est physique, elle est formée de petites molécules. Alors ces petites molécules, ça ressemble à des petites têtes de Mickey, une grosse boule avec deux petites oreilles. Et ces petites têtes de Mickey, elles s'accrochent les unes aux autres, comme une ribambelle d'enfant, vous voyez. Elles se tiennent par la main. Et donc quand l'une est tirée vers le haut, elle tire sa petite copine qui est juste en dessous. Et donc tout ça, ça va faire monter la colonne d'eau. Donc ça, c'est pour le moteur de la sève brute. Ça monte sous tension et le moteur, c'est l'évaporation et la transpiration au niveau des feuilles. Et l'autre, la sève élaborée, elle part des feuilles cette fois, donc on est là-haut. Et cette fois, c'est l'inverse. Au lieu de circuler sous tension, cette sève, elle va circuler sous pression. Alors pourquoi ? Parce que les feuilles qui fabriquent des sucres vont charger ces sucres dans les tuyaux qui font circuler la sève élaborée et qu'on appelle des tubes criblés. Et vous voyez le métro au Japon, il y a des pousseurs qui poussent les gens dans les rames. Et bien là c'est pareil, à l'entrée des tubes criblés, plus il y a de sucre dans les tubes criblés et plus les feuilles en rajoutent. Et donc, c'est chargé, on appelle ça à contre-gradient. Donc, plus il y a de sucre, plus les feuilles en chargent encore plus. Et la conséquence, ça c'est une conséquence physique, ça attire l'eau dans les tubes criblés. Donc, beaucoup de sucre, l'eau arrive en conséquence, ça crée une surpression, un petit peu comme quand vous pincez un tuyau d'arrosage, et donc ça gicle.
Ça pulse.
Voilà, ça pulse, ça gicle le sirop dans les tubes criblés, et donc ça quitte les feuilles ainsi. Donc d'un côté, on a un moteur sous tension, c'est les feuilles pour aspirer. De l'autre côté, on a un moteur sous pression, et c'est encore les feuilles, mais pour pousser la sève élaborée dans les tubes criblés.
Pas mal, hein ? C'est ingénieux, un arbre.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux ? Des spécialistes répondent à des questions posées par des enfants.
Allô, bonjour, c'est Mathilde. J'ai 5 ans, je voudrais savoir qui a fait les premiers baisers. Merci, au revoir.
Qui a fait les premiers baisers ? Merci Mathilde pour cette question. Pascal Pic, vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France. C'est vrai qu'on n'imagine pas des câlins chez les premiers hommes et pourtant Mathilde vous pose cette question.
Oh ben, c'est une très belle question parce que si quand on est grand, on se rappelle de son premier baiser, c'est important. Dans l'histoire de la vie des espèces, c'est pas évident. Or, les singes aiment bien les baisers. Oh. Les chimpanzés se font des baisers.
Non.
Et quand deux chimpanzés se rencontrent et qu'ils sont en pleine amitié, ils se rapprochent mais ils ne se touchent pas les lèvres. Alors que les autres chimpanzés et les bonobos, eux, se font un vrai baiser comme nous le pratiquons en France.
Mais un vrai baiser qui apporte de la tendresse, pas
absolument.
Un baiser pour s'enlever des pouces, ou gratter
alors,
tout ça.
Alors, ça peut être des baisers. Le baiser peut servir beaucoup de choses. Ça peut être, on se fait la bise pour se dire bonjour, même si la personne qui est là, bon voilà, on n'a pas trop d'affection pour elle. Et puis il y a le baiser qui est vraiment une vraie tendresse. Et puis la bouche où on roule un trapin, c'est très sensuel, c'est très important. Et je vais vous donner une expérience terrible, comme quoi nous, les mammifères en général, hein, les animaux qui ont des poils et qui ont un gros cerveau, eh bien, tout ça, ça vient évidemment du fait de téter. Nous avons un contact très jeune, donc c'est bon, c'est chaud, ça nous nourrit, on a conservé tout cela. Et il y a une expérience qui est terrible, hein. Alors pardon les enfants, mais c'est terrible ça. C'est l'expérience de Harlow. Ça fait une 50aine d'années, on avait mis dans une cage de jeunes macaques, à peine sevrés, et il y avait deux mannequins. Un avec une armature métallique et une tétine qui donnait du lait, et l'autre qui n'était couvert que d'une peluche, d'une fourrure si vous voulez. Eh bien le petit passait toujours son temps près de la peluche. Nous avons besoin de caresses, nous avons besoin de contact, nous avons besoin de baisers, et ça c'est tellement important pour construire notre vie vis-à-vis de ceux qu'on aime et de ceux qu'on aimera plus tard. Et d'ailleurs, d'un point de vue de l'évolution, le baiser a aussi une fonction qui est amusante. C'est-à-dire que quand un homme et une femme, ou quand on s'embrasse, eh bien, il y a des échanges d'informations avec la salive qui sont extrêmement importantes en termes de reproduction, c'est-à-dire en termes de compatibilité au niveau génétique.
Donc, et ça, c'est dans la salive déjà.
C'est dans la salive, ça passe. Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations qui passent en termes de tendresse, d'affection et aussi de possibilité d'avoir des enfants plus tard. Donc, il y a toute une mécanique extrêmement complexe et on le voit bien. Par exemple, même un chat. Moi, j'ai un chat, mais vous prenez votre chat dans votre bras, si vous sentez bien avec votre chat. Vous savez bien qu'il va vous donner un petit coup sur le petit coup de museau. Sur,
oui,
c'est comme
oui.
Un petit baiser. C'est un geste
vrai.
D'affection. Et même les chiens. Moi, j'ai des gros chiens. Bon, ça peut être impressionnant quand c'est un Doberman, c'est le cas. Mais lui, il va faire un baiser. Sauf que derrière, évidemment, il y a des grosses dents. Mais c'est un baiser. Et on voit bien qu'il passe beaucoup de choses par cela. Donc, nous sommes en fait des êtres vivants qui sont extrêmement sensibles. Mais là aussi, ça va dépendre des cultures. Comme vous le savez, par exemple, aux États-Unis, on fait pas la bise comme ça. On s'embrasse pas comme ça. Alors qu'en France, nous avons tendance à faire la bise beaucoup
vrai.
Plus facilement. Oui. Il y a beaucoup de différences selon les cultures. Mais c'est tellement beau le baiser.
Alors attention, Premier homme est le dernier livre de Pascal Pic, édité chez Flammarion.
Thank you.
Cet été, Mimpala sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Capucine, j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les hommes ils ont commencé à croire en Dieu. Merci de me répondre.
Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 7 ans. Et je voudrais savoir pourquoi on a inventé les dieux.
Ariane et Capucine, Frédéric Lenoir.
Alors en fait, on peut avoir, en tant qu'historien des religions, quelques renseignements là-dessus. Parce qu'on voit qu'au départ, les premiers humains ne croyaient pas en des dieux ou en Dieu. Ils croyaient en des esprits. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques, et on en trouve encore des traces par des populations qui vivent à la manière des hommes préhistoriques, c'est-à-dire les gens qui vivent en Amazonie, dans des tribus très reculées et tout, qui vivent dans la nature, au fond, croyaient que la nature était habitée par des forces, par des esprits, et ils communiquaient avec ces esprits. Et c'est à partir du moment où l'homme a changé de mode de vie, qu'il s'est sédentarisé, ce qu'on appelle le passage du paléolithique au néolithique, qui a eu lieu à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme a changé complètement d'organisation de vie. Il n'était plus un nomade qui vivait dans la forêt, dans la nature, de chasse et de cueillette. Il était un sédentaire qui a construit des villages et qui s'est donné une sécurité alimentaire à travers l'agriculture et l'élevage. Et du coup, il ne communiquait plus avec les esprits de la nature, qui lui servaient souvent à chasser, par exemple. Il communiquait avec l'esprit du gibier pour essayer de pouvoir avoir une bonne chasse. Et ça a changé complètement sa religion. Du coup, il a transformé les esprits de la nature en les dieux de la cité. C'est-à-dire qu'il a créé des personnages surnaturels, comme les esprits, mais qui lui ressemblaient. Puisqu'au fond, il est sorti de la nature et que l'homme est devenu le centre du monde. Alors qu'avant, la nature l'enveloppait, était plus importante que lui. Et l'homme étant devenu un peu le point de référence, il a créé ou imaginé des êtres surnaturels qui lui ressemblent, qui sont des dieux, des déesses, avec des passions, avec des fonctions, mais qui avaient la même fonction fondamentale de lui apporter de la sécurité. Et donc, il demandait, où il priait les dieux et les déesses de la cité d'avoir de la pluie, d'avoir de quoi se nourrir, donc qu'ils puissent avoir des conditions climatiques favorables pour l'agriculture, qu'il n'y ait pas d'attaque contre la cité, etc. Ce qui fait qu'on voit que les dieux sont nés quand même d'une peur face au monde, et l'homme a eu besoin de se rassurer. Et puis, à l'intérieur de ça, un jour, les gens se sont dit, mais au fond, il y a de plus en plus de dieux, est-ce qu'il n'y aurait pas un seul dieu qui domine tous les dieux? Et c'est comme ça qu'est né l'idée du monothéisme, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a qu'un seul dieu. Et cette idée est née progressivement, elle s'est développée au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors, ça, c'est l'explication historique. Maintenant, les croyants peuvent vous dire qu'il n'y a toujours eu qu'un seul dieu et qu'il s'est révélé aux hommes progressivement, et notamment à travers la Bible, à travers des livres sacrés, le Coran pour les musulmans. Dieu s'est révélé, même si les ancêtres préhistoriques avaient un pressentiment de ce dieu à travers cette croyance que je viens d'expliquer.
Les livres de Frédéric Lenoir, ainsi que ceux de Guilhem Le Saff que nous avons entendus en début d'émission, ainsi que tous ceux des intervenants des Petits Bateaux d'ailleurs, toutes ces références, vous les trouverez sur le site des Petits Bateaux. Les Petits Bateaux, c'est terminé pour ce soir, mais nous nous retrouverons dimanche prochain, le jour de Noël. Merci à Marjorie Devoucaux, Eliane Girard et Pauline Laverdure, et également à Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques. J'en ai parlé il y a un instant, n'oubliez pas notre site, également le livre des Petits Bateaux en livre de poche, 6,80 €. Et puis nous avons rendez-vous pour État d'esprit à 22 h. Ce soir, nous parlerons des sagesses venues d'ailleurs. Et pour le moment, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulle Mon Petit Loup.